Bonjour à tous, merci. Bonjour Monseigneur, bonjour à tous. Je suis prêtre de province. J'habite Versailles. Je suis très ému, très honoré de venir jusqu'à la capitale, de monter jusqu'à Montmartre. Et puis grâce à vous, je vais pouvoir visiter à la crypte. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter et faire ma démarche jubilaire. Le prêtre qui est devant vous est prêtre depuis 18 ans dans le diocèse de Versailles. Mais je vous dois la vérité, il y a un an et demi, je n'étais pas tout à fait dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Il y a un an et demi, j'étais au fond de mon lit à l'hôpital et le diagnostic était grave. Alors on ne le dit pas comme ça, mais vous connaissez, vous qui agissez, qui êtes acteur à l'hôpital, lorsqu'on on vous demande, vous savez, quelle personne de votre entourage faut-il prévenir en cas de complication? Voilà, vous dites, ah oui d'accord. En fait, on ne parle pas de la mort en général, on parle de ma mort. Et ça a été le cas, ça a été le cas. Et moi, je suis comme vous, hein, j'ai affaire à une assemblée de croyants, donc j'affirme ma foi devant vous sans risque. J'ai demandé au chirurgien, je lui ai dit, mais docteur, je vais mourir ou pas? Parce que moi, la mort, je n'ai pas peur, hein. Je connais la suite de l'histoire, hein, je sais ce qu'il y a après. Hein. Et il me répond, je pense que les médecins, pardon s'il y en a parmi vous, et les politiques ont une chose en commun, c'est la langue de bois. Et il me dit, écoutez, père Amar, rien ne nous empêche de dire le contraire. Alors je dis, ça veut dire quoi? Enfin, j'ai compris que c'était peut-être la fin du voyage. C'est la fin du voyage. Alors, évidemment, plein de questions viennent au fond de votre cœur à ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Et pourquoi la souffrance? Et pourquoi la douleur? Et puis la grande question, j'imagine que vous y avez été confronté, soit dans votre vie personnelle, soit dans votre vie familiale, soit même à l'hôpital. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Même un prêtre se la pose, cette question-là. Parce que je dois vous l'avouer, j'ai jamais eu autant mal dans ma vie. Mal physiquement, mal psychologiquement. Les prêtres ne sont pas invincibles. Hein. Ils restent avec leur humanité, et cette humanité, elle a été foudroyée il y a un an et demi, en une soirée. Et en une soirée, j'ai dû tout abandonner, la paroisse, mes paroissiens, que j'ai abandonnés en race campagne, mon évêque, pour qui je suis devenu un problème, parce qu'en fait, votre évêque, quand vous êtes prêtre, je n'ai pas commencé à Paris, mais nous, à Versailles, l'évêque, on l'aime bien, mais on ne le voit pas beaucoup, hein. On le voit quand on a un problème. C'est vrai. Et moi, mon évêque, ça fait 18 ans que je suis prêtre, je ne l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai vu entre chaque nomination. Et puis, pendant 2 mois, il est venu me voir toutes les semaines à l'hôpital. Je ne l'ai jamais autant vu, en 2 mois qu'en 18 ans de sa sagesse. Ben, ça m'a bouleversé. C'est un ancien évêque de Paris, vous connaissez, hein, Éric Aumônier. Pour vous donner un peu un aperçu du bonhomme, c'est mon père, hein, c'est le père, l'évêque, c'est le père. Il n'aime pas conduire, il n'aime pas les embouteillages. Il est venu toutes les semaines à l'hôpital. 1 heure d'embouteillage aller, 1 heure d'embouteillage retour. Il restait 1 quart d'heure dans ma chambre. La visite, c'est compliqué, hein, la visite, à la fois pour le visiteur et pour le visiter, c'est fatigant. Et en même temps, on l'attend, cette visite, elle nous fait du bien. Et vous savez, une fois il est venu, je me suis endormi. Je me suis réveillé, il n'était plus là. Je me suis dit, ah bon, il est reparti. Ça m'a profondément touché. Et lorsque c'était tangent, à un moment, il a eu cette demande que je ne soupçonnais pas. Il m'a dit, est-ce que tu veux que j'aille voir tes parents? Parce qu'on n'est pas hors sol, hein, nous les prêtres, on a une famille aussi, hein. Donc il est allé voir papa et maman à la maison en sortant de l'hôpital. Et là, devant papa, il a sonné. Et devant papa, à la porte, il a dit, « Je suis l'autre père. Oh, » c'est beau ça. Papa a fondu en larmes. Ils ont passé un petit moment ensemble, un grand moment. Et en plus, papa a fait un chèque après pour le diocèse, donc c'était tout gagné. Tout gagné pour notre évêque. Mais c'est beau, hein, cette double paternité. Vous voyez, paternité dans la chair de mes parents qui ont vécu, qui ont été aux premières loges de cette souffrance qui m'a foudroyé. Puis on a perdu un petit frère, nous, il y a 40 ans. Et pour maman, ça a été dur. Elle voyait son fils partir. Ça a été un peu douloureux. Et donc voilà, première expérience, je voulais vous dire, expérience de l'Église en la personne de l'évêque, père de ses prêtres. On le voit comme chef, l'évêque. Il est le chef, évidemment. Le chef avec ses limites, ses défauts, comme tous les chefs. Hein. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Quand 2 ou 3 prêtres sont réunis, l'évêque est là au milieu d'eux. » Pour dire si on murmure parfois sur l'évêque. Mais moi, j'ai vu le père. Ça m'a touché, ça m'a profondément touché. Donc je vous dis ça, si jamais vous connaissez des prêtres qui sont malades, dites-leur que l'Église est là, elle souffre avec elle et avec eux, et elle est présente, cette Église, notamment dans la visite, votre visite à vous, comme membre des aumôneries, et puis de leur évêque ou de leur ami prêtre. Deuxième chose qui m'a évidemment un peu bouleversé, c'est que, en une soirée, puis ensuite 2 mois d'hôpital, puis ensuite 4 mois de convalescence, puis ensuite encore aujourd'hui, où c'est pas tout à fait comme avant, évidemment, J'ai écrit tout ça dans un livre, peut-être que vous avez vu, vous avez eu la gentillesse, certains, de me dire que vous l'avez lu. J'aime pas vendre le livre, de toute façon, les droits d'auteur vont à Padre Blog, un autre projet apostolique que je porte avec d'autres prêtres. Ce livre s'appelle Hors Service, et tout est dans le titre. Moi, je ne suis pas moine, hein. Je suis prêtre de diocèse, prêtre diocésain, prêtre de terrain. C'est-à-dire que moi, ma grande joie, c'est de dire la messe, c'est de baptiser, c'est de confesser, c'est de marier, c'est d'enterrer, c'est de... Voilà, de rayonner. Moi comme prêtre, mais nous tous comme baptisés, évidemment. Et en une soirée, j'étais prêtre pour personne. Pendant 2 mois, je n'ai pas dit la messe. Ça m'a manqué, vous imaginez pas. Vous allez me dire, oui, mais c'est le signe que c'est votre vocation. Évidemment, évidemment. Vous savez, quand vous êtes habitué à dire la messe pendant 18 ans, pendant 2 mois, vous ne pouvez plus la dire. Vous regardez la messe le jour du Seigneur. La première fois de ma vie, j'ai arrêté le jour du Seigneur, le dimanche matin. Je me suis dit, bon, ben, ça, on verra plus tard, hein, quand je serai à la maison de retraite. Mais là, avec 45 ans, j'ai dû regarder le jour du Seigneur. Ça m'a fait un bien fou. Quand on n'a que ça, le jour du Seigneur. Quelle joie, quelle joie. L'infirmière, une des infirmières dans lesquelles... qui s'est occupé de moi, le dimanche, il y avait la visite, vous savez, il y a l'infirmière qui vient avec son chariot, elle lui fait plein de soins, etc. Et puis, moi, il y avait la messe à 10h30 sur France 2, quoi. J'avais dit à l'infirmière, c'est important pour moi, j'aimerais bien entre 10h30 et 11h30 être un peu tout seul. Elle me dit, pas de problème, je fais la visite avec vous en premier, après je ferai les autres patients. Elle avait mis un écriteau sur ma porte, ne pas déranger. Elle n'est pas croyante, cette infirmière, incroyable. Donc, cette expérience d'arrêter de faire, voyez, a été renouvelante pour moi. Je vous le dis que maintenant, de se retrouver à être prêtre pour personne, prêtre, croyais-je, hein, pour rien, c'est-à-dire ne faisant plus ce qu'il est habitué à faire, à témoigner, à rayonner. J'ai vu que je pouvais rayonner autrement, mais j'ai compris que bien après. Cette expérience a été renouvelante. Et je suis convaincu avec vous, si vous voyez des personnes qui disent « je ne sers à rien, je m'ennuie, je ne fais plus rien », notamment peut-être les malades un peu plus jeunes qui vous le disent, mais même des personnes âgées qui vous disent « mais c'est inutile, ma vie n'a plus de sens ». Moi, je suis convaincu que quoi qu'il arrive, que vous soyez paralysé dans votre lit, ne pouvant plus communiquer, il y a 3 choses qu'on peut faire et qu'on ne vous enlèvera jamais. Offrir ce qui vous arrive. Offrir. Je porte, Seigneur, ma détresse, ma souffrance que je vis là, pour telle personne, pour telle autre, pour mon diocèse, pour mon évêque, pour nos prêtres, pour... Vous savez, j'étais hospitalisé en pleine crise de l'affaire Barbarin, des prêtres pédophiles, j'avais des intentions de prière, hein, je peux vous dire. Offrir. Priez. Deuxième recette, priez. Ça, on pouvait le faire, hein. On peut toujours le faire. Moi, je regrette de ne pas avoir assez prié à l'hôpital parce que j'avais tellement mal que les formules, le bréviaire m'étaient un petit peu difficiles. Par contre, j'ai réussi à dire mon chapelet. Chapelet, c'est vraiment la prière des pauvres pour les pauvres. Hein. Une prière de pauvres. Donc, priez, ça, vous pouvez le faire. Même une personne annihilée, impuissante, peut faire ça. Offrir, prier. Puis, troisième recette, sourire. Ça, on peut le faire à l'hôpital. Et vous savez, souvent, j'entends dire, « Ah, mais telle infirmière, telle aide-soignante, elle n'est pas très sympa, etc. » On est aussi responsable de la gueule qu'on fait à l'hôpital. Hein. Pardon, hein, de ce... Mais... Moi, j'ai remarqué aussi que quand on dit bonjour, merci, s'il vous plaît, à l'infirmière, à l'aide-soignante, ben, elle est comme nous, elle est humaine aussi. Hein, elle a le droit qu'on lui dise bonjour, qu'on lui dise merci. Ça compte énormément. Sourire. Évidemment qu'on a mal. Évidemment qu'il faut le dire. Mais sourire, c'est encore possible. Pas toute la journée, de temps en temps. Offrir, prier, sourire. OPS, vous en souviendrez. Hein. Là, il faut que je raconte 2 histoires trop belles. J'ai commis une erreur. Comment vous dire ça gentiment ? Gentiment, en fait, pour mes parents et l'éducation que j'ai reçue. J'ai été formé à Versailles, vous l'avez vu, j'ai un côté versaillais, certainement, un peu bien élevé, un peu bourgeois, un peu dis bonjour à la dame, dis merci à la dame, dis au revoir, dis merci, ne dérange pas, excuse-toi. Ça m'a joué des tours, ça. Ça m'a joué des tours. Par exemple, pendant une semaine, j'avais très mal au ventre, la tumeur s'installait, et puis j'avais mal au ventre. Et j'ai voulu rien dire pour pas déranger. Ben non, bah, écoute, prends un Doliprane, ça va passer, et puis... Ne dérange pas les gens autour de toi. Puis au bout d'un moment, ça va pas bien. Hein. Puis il faut bien s'arrêter. Donc j'étais hospitalisé en urgence. On a découvert plein de choses. Puis la tumeur a fait des ravages. Peu importe, je ne dis pas ça pour dévoiler mon état médical. Hein. On n'est pas là pour ça. Une nuit à l'hôpital, 2h du matin, broyé par la douleur, je dis je sonne ou pas. C'est question récurrente à l'hôpital. Je sonne ou pas, l'infirmier. Alors, je décide de sonner à 2h du matin. Arrive un homme qui s'appelle Karim. un soignant, un aide-soignant, qui m'a dit ça va pas. Je dis non, je peux plus, je dors pas, j'ai trop mal, donnez-moi quelque chose. Là, il me dit, mais ça fait combien de temps que vous avez mal? Je dis, bon, je parle depuis 22 heures. Là, il me regarde, j'étais intubé partout. Hein. Il me dit, vous croyez à l'hôtel? Je comprends pas, comme c'est ça, il m'était discours, vous avez mal, je suis là pour ça, après que je regarde un film pendant que vous êtes malade, je suis là pour vous soigner, c'est ridicule. Je vais vous donner quelque chose de plus fort, là, à 2h du matin, qui est plus violent, donc j'aurais préféré vous le donner à 20h, à 22h, je vous aurais donné quelque chose de plus... Je connais pas trop, moi, les protocoles, hein, mais j'aurais donné quelque chose de plus, moins fort. C'est idiot. Et là, je lui dis, je m'enfonce, hein, je lui dis, je suis désolé. Arrêtez de vous excuser, dit-il. Vous êtes malade, faites le malade. En fait, c'est ce qu'il m'a fallu. C'est ce qu'il m'a fallu, en fait. À partir de ce moment-là, tout a basculé. J'ai compris que, en fait... Mon orgueil n'était pas mort, en fait. Là, j'étais beau, je voulais tout maîtriser, en fait. Y compris maîtriser ma maladie. En fait, non, il y a un lâcher-prise. Vous voyez, même au fond de son lit, un malade reste avec ses combats intérieurs. Et le prêtre que j'étais ne voulait pas lâcher prise, en fait. Et j'ai dû lâcher prise. Et Karim, en m'engueulant un peu, hein, pardon, hein, mais en fait, a été très juste pour moi cette nuit-là. Et j'ai compris qu'il fallait lâcher prise pour la toilette, lâcher prise pour tel ou tel geste de soin. Et ça va beaucoup aider. Deuxième chose que je voudrais absolument vous raconter, il reste combien de temps, chef?
Pas grand-chose, mais...
Pas grand-chose. Je dis de me faire signe. On apprend beaucoup de choses quand on va voir les malades. Les professionnels font leurs gestes techniques, mais nous tous, accompagnateurs, soignants, visiteurs, vous tous, mes amis, Ce qui viendra de plus juste, de plus vrai, c'est ce qui vient du fond de votre cœur. Il faut absolument que je vous raconte cette histoire qui m'a profondément touché. C'était le 7e ou le 8e week-end que je passais à l'hôpital. Le week-end, vous savez, pour un prêtre, c'est les 48 heures où il est à fond. Hein. Il passe la journée à marier samedi après-midi, à avoir des sermons d'hôtel le matin, à faire une réunion d'équipe Notre-Dame le soir. Ensuite, le dimanche, il y a le marathon des messes. Ensuite, les fiancés l'après-midi à rencontrer. Encore peut-être la messe du soir. Enfin, c'est 48 heures, génial. Ne dites pas bon week-end à un prêtre, c'est il est à fond. Bon lundi, si vous voulez. Le 7e ou 8e week-end à l'hôpital, donc toujours un hors service, prêtre pour personne. Et là, j'ai sombré psychologiquement. Je me souviens très bien, c'était un week-end où j'aurais dû être à Marseille pour marier un jeune couple, le jeune qui avait préparé toute l'année au mariage, Timothée et Marie. Et il m'envoyait par WhatsApp les photos du mariage, le ciel bleu de Marseille, les cigales, magnifiques, la mariée jolie comme tout, le marié très élégant, enfin... Moi j'étais là à l'hôpital, je me suis dit, mais voilà, ma vie est un échec. Pardon, hein, je l'ai pensé, hein, mais je vous le dis, hein, on m'a dit qu'il fallait que je sois sincère et authentique, je vous le dis. Et j'allume la télé, vous savez, on fait pas grand-chose à l'hôpital, donc il y a la télé, hein. Et je regarde la Ryder Cup. Il y en a qui jouent au golf ici ou pas? C'est un championnat de golf. Et c'est idiot, hein, mais j'assimilais le golf à un sport de vieux. Et je me disais, voilà, t'as 45 ans, t'es à l'hôpital, t'es prête pour personne, et tu regardes le golf à la télé. Ta vie est un échec. Non, je l'ai pensé. Hein. Entre une infirmière, qui s'appelle Manon, je me souviens encore, Manon. Elle rentre pour vérifier ce que toutes les infirmières connaissent, la fameuse plomberie, vous savez, tous les câbles, les machins, au pied à perfusion, là, elle regarde, etc. Et là, je fonds en larmes. Mais ça va pas, monsieur Amar. Voilà, moi j'ai 45 ans, je regarde le golf à la télé, ça se passe le vieux. C'est ma vie est un échec. Elle me dit, je me souviens encore, ça avance. Ouais, elle me dit, je ne suis pas chrétienne. Je dis, mais on s'en fout. Bon, elle fait semblant de vérifier la plomberie, ou elle le fait pour de vrai. Moi je sanglote. Elle me dit, je peux m'asseoir à côté de vous. Et ça ne soit jamais les infirmières, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps, mais aucun reproche de ma part. Moi je dis, ben, si vous voulez. Je peux vous prendre la main, ah, si vous voulez. Et là, vous allez rire, mais c'est main dans la main, elle et moi, on a regardé le golf. Vous voyez, ça peut être 5 minutes. Hein. Vous voyez ça? Je pense qu'elle ne l'a pas appris en école d'infirmière. Parce que je vais à l'hôpital tous les 3 mois pour des tests, etc. Tout va bien, mais j'ai revu Manon. Je suis monté dans le service, je dis « Manon, le golf !» Elle ne s'en souvenait pas. Alors, ça veut dire que c'était naturel, que c'était venu de façon spontanée et qu'elle avait eu le geste qu'il fallait au bon moment. Je vous dis ça, mes amis, et je termine. Voilà, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça vient du cœur. Et Manon, qui n'était pas chrétienne, hein, Ça, au ciel, moi je peux vous dire, le Seigneur, je dirais, tu laisses passer, hein. Manon, elle m'a permis de ne pas sombrer. Vous voyez, ça c'est pour... Tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire en vous asseyant à côté de quelqu'un. Elle n'a pas dit grand-chose, hein. Elle a juste pris la main. C'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là, pour moi, qui était tout simplement malade, son frère malade. Voilà mes amis, pardon, hein, le père Seguin m'a dit, tu leur racontes deux, trois histoires parce que c'est 13h30, ils s'endorment après le repas. Merci de votre attention.